de bâtir, mais de bâtir aussi l'homme, la femme, lui donner une conscience, lui permettre d'approfondir un certain nombre de problèmes, de se poser des questions, de chercher chacun sa vérité. Mmh. C'est ça. Il n'y a pas une vérité. On cherche chacun sa vérité. C'est ce qui en fait, une société très diverse, très éclatée, qui n'est pas unie du tout. Vous l'aurez compris, où vous rencontrez aujourd'hui, beaucoup plus que par le passé, puisque d'ailleurs la galaxie politique et philosophique a beaucoup évolué et s'est diversifiée, vous rencontrez des hommes et des femmes venus de tous les horizons politiques et philosophiques.
Alors, l'histoire de la franc-maçonnerie est semée d'embûches. Les idées vont infuser, on l'a dit, se répandre en Europe, en Amérique, en Asie. L'Église va réagir à ces idées-là. Le 24 avril 1738, il y a la bulle In Eminenti du pape Clément XII. Que dit cette bulle ?
Mais c'est la première bulle de condamnation de la maçonnerie qui émane depuis la plus haute autorité de l'Église catholique. Elle sera répétée presque dans les mêmes mots en 1751. D'abord, le maçon s'engage à garder le secret. Mais ne nous méprenons pas sur le secret. C'est-à-dire à ne pas trahir ses frères, à ne pas dénoncer un maçon. Ouais, je vous parle librement. Un jour, on m'a demandé de m'exprimer au nom de la maçonnerie, ça remonte il y a très longtemps, je l'ai fait volontairement et spontanément, mais vous ne m'aurez jamais entendu dire un tel est maçon, etc.
Mais pourquoi garder le secret sur l'identité d'un autre maçon ?
D'abord, pour une raison que l'histoire montre. La maçonnerie est une société de pensée libre. Je ne dis pas de libre pensée parce que ça risque de provoquer des confusions. On peut y voir des laïcards ou des anti-religieux ou que sais-je encore, de pensée libre. C'est-à-dire avec toute la diversité des croyances et des expressions que cela peut receler. Et que les régimes forts, les régimes totalitaires, les régimes absolus, dans toute l'histoire, sous toutes les latitudes, dans tous les continents, n'ont jamais apprécié, mais je prendrai, le XXe siècle. Les régimes nazis et fascistes ont tous interdit la maçonnerie et condamné les maçons. Il y en a pas mal qui sont allés dans des camps de concentration dans les années 30 et pendant la guerre 40. Mais je rappellerai que les régimes communistes, l'Union soviétique, les soi-disant démocraties populaires qui l'entouraient, les régimes d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Sud qui sont tombés dans les mains communistes, ont adopté exactement la même politique. L'interdiction, la peur de la liberté de penser, avec tout ce que cela peut générer de liberté d'expression, de débat politique, de contestation. Donc, oui, on peut comprendre que lorsque vous êtes maçon, vous puissiez, en fonction notamment des responsabilités qui sont les vôtres, vous sentir menacé. Quand j'ai été amené à m'exprimer sur la voie publique, vais-je dire, dans des journaux, dans des interviews ou en télévision, ça remonte dans les années 80, j'étais recteur de l'Université libre de Bruxelles. Je ne savais pas que je ferais un jour de la politique. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver ? Rien. Mais si vous êtes employé dans une société où le patron peut être catholique, peut ne pas aimer les maçons pour des tas de raisons, vous êtes en danger.
C'est donc ce secret-là que rejette l'Église, que rejettent les États absolus, totalitaires, etc.
Et puis, et donc, il y a une demande de fidélité, en quelque sorte, à la maçonnerie. Et le pape et les Églises partent du principe qu'on ne peut pas avoir deux fidélités, l'une à l'égard de l'Église qui détient la seule vérité. Nous parlons ici de l'Église catholique, et qui n'accepte pas, ce partage. Deuxièmement, c'est extrêmement important, et nous y revenons à ce que je vous disais tout à l'heure au début de notre émission. Ce que l'Église craint par-dessus tout, elle sait qu'à l'intérieur des loges, on est amené à rencontrer des hommes au XVIIIe siècle qui ne sont pas nécessairement des adeptes de la religion catholique, qui ont une liberté d'esprit. Et donc, ce qu'elle craint, c'est la contamination. C'est qu'on abandonne peut-être sa religion catholique, qu'on change de religion, qu'on change de conviction. Et que c'est là, j'allais dire, elle a peur de voir s'effriter progressivement son influence. Donc, celui qui est maçon est un hérétique en puissance.
Alors qu'il y a des ecclésiastiques hein, dans la franc-maçonnerie.
Vous l'avez dit. Mais nous savons très bien qu'au XVIIIe siècle, être prêtre, même monseigneur, archevêque ou cardinal, pour beaucoup, c'est une profession plus qu'une vocation. Mmh. On sait très bien qu'il y a une évolution considérable, n'est-ce pas, dans le courant du XVIIIe siècle. Et qu'on connaît certains dignitaires de l'Église catholique à la fin du XVIIIe siècle, dont on se demande s'ils croient encore en Dieu. Mmh. Voilà, notamment en France. Donc, par conséquent, qu'il y ait, et les études ont été faites par un jésuite espagnol que j'ai bien connu, professeur à l'université de Saragosse, le professeur Benimeli, qui a beaucoup travaillé dans les archives vaticanes, et ainsi que partout un peu en Europe, et qui connaît bien les autres continents, et qui est arrivé à la conclusion qu'au moment de la Révolution française, il y avait environ 2000 ecclésiastiques de tout rang qui avaient été amenés à participer à des travaux maçonniques. Ça veut dire aussi qu'à l'intérieur même de l'Église, il y a un appel d'air. Mmh. Il y en a qui veulent que ça change, qui ne veulent pas rester confinés, n'est-ce pas, dans un espace limité où on vous dicte ce que vous devez croire, ce que vous pouvez penser. Ça ne fait plus l'unanimité. Et je veux bien rappeler que, par exemple, dans nos contrées, parlons de la Belgique, vous avez un prince-évêque de Liège, Velbruck, qui est un maçon éminent d'une loge liégeoise, la Parfaite Intelligence, qui dépend d'ailleurs à l'époque du Grand Orient de France. Et vous avez à Mons, Pays-Bas autrichien, à la fin du XVIIIe siècle, les Amis de Marie-Thérèse. Bah, c'est une loge composée essentiellement de chanoines de Mons. Voilà. Mais donc, ça montre qu'il y a là des foyers intellectuels, des foyers de réflexion. C'est une façon aussi de braver l'ordre religieux établi, même si on en fait partie.
Et on va voir que parfois, la position des francs-maçons quant à certaines matières comme l'esclavage est paradoxale. On va clarifier cela avec vous, Hervé Asquin.
Respectable frère Grand Porte-Glaive, veuillez, je vous prie, remplir votre office. Respectable frère Grand Porte-Étendard, veuillez placer notre bannière à l'Orient. Mes frères, veuillez prendre place.
Un jour dans l'histoire.
Extrait toujours de ces francs-maçons à visage découvert, le film des dossiers de l'écran hein, sur Antenne 2. Avant peut-être d'évoquer cette matière de l'esclavage, la position parfois ambiguë des francs-maçons, Hervé Asquin, peut-être dans l'extrait ici, on entend beaucoup de symbolique, il y a une mythologie, enfin les francs-maçons eux-mêmes expliquent leur origine par une certaine mythologie. Cette symbolique, elle a quel sens ?
Mais la symbolique, c'est ce qui permet aussi, de dépasser sa propre croyance et au travers des symboles qui sont communs, de procéder à des recherches, d'avoir des rencontres, philosophiques. Alors bien sûr, comme dans toute société, vous avez un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont extrêmement respectables, mais dans toute société, vous avez parfois des groupes qui essayent de se donner une généalogie, vais-je dire, qui remonte dans la nuit des temps, d'où l'attrait pour l'égyptomanie tout un temps, d'où la légende des Templiers, de l'époque des croisades, etc. Donc, je n'en ai pas parlé. Pour ma part, j'essaie de garder mon esprit critique d'historien. Donc, la maçonnerie, elle commence véritablement telle que nous la connaissons aujourd'hui en 1717. Il y a des ramifications, nous l'avons vu, dans le courant du XVIIe siècle. Mais faisons fi de ces lointains passés un peu mythologiques qui ne reposent davantage que sur du sable, que sur un certain nombre de réalités.
Alors, des idées neuves, on l'a dit, des idées transgressives, la liberté, le respect, la tolérance religieuse, l'égalité sociale, et puis matières qui posent question. Là, le rapport à l'esclavage au XVIIIe siècle d'un certain nombre de francs-maçons qui justifient cette pratique.
Non, disons que la maçonnerie sera tout de même un milieu qui, en la matière, sera, facilement opposé. Je rappelle d'abord que c'est un franc-maçon, Schœlcher, qui, en France, abolira l'esclavage. Il faut tout de même s'en souvenir.
Et Napoléon le rétablit.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle que c'est la Révolution française, au début des années 90, va abolir l'esclavage. Mais que c'est quelqu'un qui n'est pas maçon, qui va rétablir l'esclavage, c'est Napoléon. Alors, Napoléon avait beaucoup de maçons dans son environnement, des frères, des sœurs, etc. Lui-même ne l'était pas. Et un de ses descendants me l'a encore confirmé il y a peu. Et voilà, il y a les impératifs économiques qui ont joué. Donc, il y a une période. Nous sommes aussi dans l'ère des Lumières, des progrès démocratiques. On sent qu'il y a une période, effectivement, d'hésitation dans le chef d'un certain nombre de personnes. Mais rapidement, les pas seront franchis, j'allais dire, dans le courant du début du XIXe siècle, en faveur de l'abolition de cette pratique tout de même abominable.
Alors, on est rentré là dans le XIXe siècle. Un moment de rupture est important pour la pensée franc-maçonne. C'est en décembre 1864, la publication d'une encyclique, là, ici, par le pape Pie IX. C'est l'encyclique Quanta Cura qui énonce les grandes erreurs de l'époque, c'est-à-dire, selon le pape, la démocratie, le libéralisme, le socialisme, la liberté de la presse, de la recherche, etc. Ce sont en fait les grandes idées issues des révolutions. Là, la franc-maçonnerie va devoir se repositionner.
Oui. Parce que la maçonnerie, je vais dire, c'est surtout les individus, les maçons, dont je rappelle que la plupart étaient croyants. Donc, d'abord, c'est un message que je voudrais faire passer. Ce n'est pas la maçonnerie qui a exclu les catholiques. Un. Deux, ce sont les papes qui ont intimé l'ordre aux catholiques de quitter la franc-maçonnerie. Et les choses vont s'emballer en Belgique à partir de 1837. Vous avez une directive émanant de l'épiscopat belge qui est très claire en la matière et qui va mettre au plus mal le premier grand maître du Grand Orient de Belgique qui était le baron de Stadsar, qui était un croyant et un pratiquant fervent et qui va se retrouver dans une situation infernale qui l'amènera progressivement à renoncer à la grande maîtrise du Grand Orient. Donc vous avez à l'intérieur de la maçonnerie belge, je prendrai celle-là d'abord dans les années 40-50, un mouvement de prise de distance, notamment les aristocrates catholiques qui étaient nombreux, quittent progressivement la maçonnerie. Et puis vous avez cette attaque rude contre la modernité qui se trouve dans Quanta Cura en 1864. Il faut dire que le pape de l'époque est aux abois puisque c'est le Risorgimento en Italie, l'unification italienne qui se fait aussi au détriment des États pontificaux. Et donc, pour des intellectuels qui sont croyants, à tout le moins déistes encore, mais en tant que condamnés, le libéralisme, le socialisme, la démocratie, la liberté de presse, la liberté de conscience, la liberté de recherche scientifique,
oui,
etc.,
ça, le progrès de la science
vous
aussi.
Comprenez que ça constitue un ébranlement intellectuel considérable, et c'est une date clé, on le voit, nombre de ces intellectuels vont dire non, ce n'est plus possible. Il y a une incompatibilité entre la science et la foi catholique, l'adhésion à la religion. Et on suit un processus comme celui-là très attentivement, c'est très clair, quand on voit l'histoire de l'Université de Bruxelles, l'histoire de ses cours, l'histoire de ses professeurs, de la nature de l'enseignement. Je rappelle, ça va sans doute étonner, n'est-ce pas, un certain nombre de nos auditeurs, que l'Université libre de 1834 et pendant très longtemps va être composée, quant à son corps professoral, à 95% de professeurs croyants, en tout cas déistes. Et ces événements que je viens d'évoquer vont évidemment provoquer une mutation. Et c'est vers cette époque-là aussi qu'on commence à parler de l'université du libre examen. Ça va avoir un impact considérable sur la structure même de la franc-maçonnerie en Belgique. C'est qu'en 1872, et le Grand Orient de Belgique est la première obédience maçonnique dans le monde à le faire, on change les statuts du Grand Orient. Et désormais, pour entrer en maçonnerie, il n'est plus nécessaire de rendre hommage et dire d'apporter son adhésion au grand architecte de l'univers. La croyance en Dieu n'est plus une nécessité et les Français suivront en 1877, ce qui va provoquer une forme de schisme à l'intérieur de la maçonnerie internationale. Parce que l'Angleterre, qui se veut dépositaire de la tradition maçonnique, et elle a des titres à faire valoir, c'est une évidence, s'en tient, comme s'en tiennent encore aujourd'hui, au même point de vue, toutes les maçonneries d'obédience anglo-saxonne, a l'obligation de croire en Dieu pour être maçon.
Et pour approfondir ce XXe siècle qui sera, vous l'avez dit, un terrible pour la franc-maçonnerie, les deux guerres mondiales, les États totalitaires, le rapport à l'islam aussi, et puis donc ce début du XXe siècle, du XXIe siècle, on se reporte à votre ouvrage « Trois siècles de franc-maçonnerie et après les entretiens » avec Eddie Kakelberg, c'est aux éditions du CEP. Merci encore une fois, Hervé Asquin, d'avoir été avec nous.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Sur la première. Le salon des nouveautés Peugeot.
Thierry est responsable des nouveautés.